réunions de point d'étape ou de pré-synthèse ou de synthèse préliminaire, on peut l'appeler comme vous voulez. Simplement dire aux personnes qui sont en bas, si elles le souhaitent, on a ouvert la mezzanine, donc il y a des places assises de disponibles là-haut. Si vous souhaitez y aller, merci de me faire un petit coucou, c'est gentil aussi. Ben voilà, merci, ben, coucou aussi, hein. On se fait coucou. Voilà, alors, comme vous le savez, parce que certains d'entre vous étaient présents lors de cette première réunion de présentation des trois projets que nous avions menés au théâtre, on a été un petit peu victime de notre succès puisque nous n'avons pas réussi à faire rentrer tout le monde au théâtre. On a dû refuser une centaine de personnes et donc on a eu pas loin de 750 personnes de présentes dans le théâtre. On a après décliné et poursuivi avec un certain nombre de réunions thématiques. Et la plupart de ces réunions ont eu lieu dans le hall du centre administratif. On a fait une réunion avec le secteur associatif, qui était aussi importante. Une réunion avec le quartier. Quand je dis quartier, principalement Armagis, Ourche, Cité Larget, bâtiment SDIS. Hein. Le SDIS, c'est les pompiers. Je vais vous en parler des pompiers dans quelques secondes. Et rue Léon Desoyers, hein, qui a permis d'identifier, je pense, un certain nombre de sujets, de difficultés, en tout cas de points qui doivent être adressés et remontés au groupement. Une réunion que l'on a faite en soirée, un peu, on va dire, actif, c'est-à-dire pour celles et ceux qui n'avaient pas eu le temps, soit le week-end, soit à des heures un peu moins avancées de la nuit, de venir voir l'exposition. Et cette exposition a également très bien marché. Puis plus récemment, en début de semaine, l'ensemble du comité de direction de l'hôpital Poissy-Saint-Germain est venu visiter aussi l'exposition. Ça a permis d'avoir et d'obtenir des précisions sur le projet médical. Et puis, hier soir, une réunion avec l'ensemble des familles de pompiers. Vous savez que au droit des châteaux d'eau, c'est l'ancienne caserne des pompiers de notre ville, avant qu'elle ait déménagé sur le quartier du Bel Air. Et donc, il y a historiquement deux immeubles qui appartiennent à la ville et qui, aujourd'hui, sur les 40 logements, 26 logements sont occupés donc, par des familles de pompiers et qui sont bien évidemment concernés et impactés par ce projet. Et donc, il y a des solutions de relogement qu'il faut mettre en place en lien avec leur commandement, parce que ce sont des logements pour nécessité de service, évidemment, pour nos pompiers, sachant que ce ne sont pas que des pompiers qui officient sur Saint-Germain. Ça me permet de rendre voilà, un petit hommage aussi à nos pompiers en ayant en perspective les événements qui se sont passés cette semaine. Donc, on a décliné un certain nombre de réunions, à chaque fois en essayant de faire remonter le maximum d'informations. J'ai oublié la réunion qu'on a eue également avec les commerçants. Voilà, on a eu une réunion de présentation des projets. Ça a permis aussi de faire remonter au groupement ou de commencer à synthétiser un certain nombre de points qui doivent être remontés au groupement. On a mandaté pour faire cette synthèse Marie Josquin, qui est ici présente. Donc Marie est un prestataire extérieur et qui a eu pour mission de synthétiser toutes les remontées que nous avons obtenu jusqu'à présent. Alors, elle vous donnera les données empiriques, les données chiffrées, les grandes thématiques qui sont remontées de cette consultation. Je rappelle que l'objectif de cette consultation, c'est de faire remonter le plus en amont possible, avant le choix du projet qui doit l'emporter avant l'été, le maximum d'observations pour que les groupements intègrent ou ne les intègrent pas, mais à eux de se positionner par rapport aux remontées. Et qu'après, nous ayons, nous, élus, quand nous serons amenés à prendre la décision fin juin, le choix le plus éclairé possible, en tout cas, qui intègre le maximum d'éléments qui sont remontés. Je sais bien que c'est un exercice qui est complexe, qui est compliqué, qu'on ne peut pas tout intégrer, qu'on ne peut pas tout accepter, mais l'idée, c'est quand même d'avoir le maximum de remontées sur cette synthèse. Donc, Marie va effectivement vous faire cette synthèse, et puis après, je passerai la parole à Madame Marie-Lise Massé, qui est notre maire adjointe en charge de l'urbanisme et qui pilote notamment ce projet pour peut-être un temps d'échange avec la salle ou pour en tout cas peut-être faire un peu plus le point sur les avancées du dossier. Je voudrais simplement vous préciser que voilà, on est en amont, que c'est un projet qui va être long, on le sait, qu'à partir du moment où nous allons choisir le groupement, voilà, fin juin, début juillet, que le conseil municipal sera amené à se prononcer sur le choix. Il va se passer beaucoup de choses juridiquement, financièrement, mais pas grand-chose sur le terrain. Parce que dans ce projet-là, il est tout d'abord conditionné au calendrier de libération par l'hôpital d'un certain nombre de locaux. On est en train d'affiner ce calendrier en ce moment. Et donc, pendant 18 mois, il ne va pas se passer grand-chose, le temps que les opérations tiroirs, avec notamment la mise en place du nouveau bâtiment des urgences de Poissy, soient opérationnelles, ce qui permet effectivement de faire les permutations de services, c'est-à-dire les services de Poissy qui vont venir sur Saint-Germain et les services de Saint-Germain qui vont, le cas échéant, aller sur Poissy. Donc, c'est important d'avoir aussi ce calendrier. On est sur un calendrier de projets qui pourrait être finalisé 2025-2026. Voilà, mais on sait que les projets prennent du temps et qu'il faut les anticiper et qu'on est, comme je l'ai dit et comme on l'a redit avec Isabelle Leclerc, la directrice du centre hospitalier, sur un projet dont la dominante et la thématique majeure est la santé. Hein, on parle de la reconstitution, de la restructuration du pôle de santé publique et du pôle de santé privée sur ce site, parce que dans ce projet, il faut intégrer l'extension prévisible à venir et demander de la clinique Saint-Germain aussi. Je le rappelle que, notamment en matière de maternité, cette clinique va très certainement être amenée à avoir plus de naissances. Elle en fait environ 1 000 000 aujourd'hui. Elle va très certainement tangenter 1 300, 1 400 dans les prochaines années. Donc ça génère aussi des besoins et des suites de soins dont la clinique a besoin. Et puis aussi un autre pôle, qui est le pôle de santé de ville, avec la mise à disposition de locaux pour les praticiens de ville. Voilà, je ne voudrais pas être trop long. Je vais laisser la parole à Marie, qui va venir ici, je crois, et qui a une présentation à vous présenter. Et puis, on se retrouve après pour les questions. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter maintenant les premiers éléments statistiques qui sont, on est à peu près à mi-parcours de la consultation et donc on peut déjà commencer à voir apparaître quelques tendances. Alors, hop, je découvre les machines. Voilà. Donc tout d'abord sur l'identité des participants ou des personnes qui jusqu'à présent ont répondu au questionnaire. Donc en fait, sur les âges, nous avons environ 7% de personnes qui ont moins de 25 ans. La grosse partie des répondants ont entre 25 et 55 ans. Ils représentent à eux 56%. Et en fait, on s'aperçoit aussi qu'au-delà de 55 ans, les plus de 65 ans sont eux-mêmes 25% à répondre. Voilà. Donc ça, c'est pour les âges et donc sur l'identité des répondants. Ensuite, on s'est aperçu aussi que si on raisonne par quartier, le quartier de l'hôpital n'est pas forcément celui qui a été le plus motivé jusqu'à présent pour répondre, puisque c'est 18% des réponses. En revanche, le cœur de ville, 32% des personnes qui ont répondu sont issues du cœur de ville. 1,4% pour Fourqueux, donc ils peuvent participer également. Et puis, les personnes qui ne sont pas de Saint-Germain, donc on peut imaginer que ce sont des usagers ou des commerçants, sont, quant à eux, ont répondu pour 11% des réponses. Voilà, donc on va aborder ensuite la partie, ce qu'on a appelé la forme urbaine. Donc on va avoir 4 slides sur la forme urbaine. Le premier de ces deux schémas, donc quels sont pour vous les enjeux de ces nouveaux quartiers? En fait, les enjeux d'un quartier réussi pour les personnes qui ont répondu jusqu'à présent, est-ce qu'il va les rendre acceptables? C'est notamment la complémentarité des logements, des commerces et des services, donc entre eux et probablement avec le reste de la ville. Donc ça tient compte à hauteur de 26,5% dans les réponses. Et je reviendrai dessus un peu plus loin sur la différence logement, commerce et services. La forme urbaine, donc ça c'est une tendance forte qu'on note, la forme urbaine doit être une transition douce avec le centre-ville, donc pour 24% des réponses. Ça apparaît dans le questionnaire numéro 30 que vous voyez à gauche. Voilà, c'est en orange. Et il y a un souhait conforté sur l'exigence forte donc d'harmonie avec l'ancien. Donc on veut quelque chose, une transition douce, une harmonie avec l'ancien, et on veut rester ouvert quand même à un caractère contemporain de ce nouveau quartier pour 59% des personnes. Et ensuite, on voit l'utilité des places, des cours, des ruelles pour créer des coutures en fait avec les quartiers existants. Et donc ça pour 24%. Donc on va parler aussi des éléments qui plaident en faveur de l'apaisement de cette impression d'impression éventuelle, de densification et de hauteur. Donc là-dessus, on s'aperçoit, et je change de slide, on s'aperçoit, les slides sont parfois complexes parce qu'il y a des données croisées, mais ne vous y fiez pas, regardez les grandes lignes en fait, regardez les lignes horizontales. Donc la luminosité en fait, c'est la luminosité qui prévaut. Vous arrivez quand même à lire à peu près ? Ah, je suis désolée. Donc en fait, la grande barre horizontale, c'est la luminosité. Voilà. Ouais, je suis désolée. Faites confiance à ce que je vais vous dire alors. Je suis désolée. 32% privilégient la luminosité des appartements, tous âges confondus. C'est-à-dire que voilà, c'est pas une question d'âge. Tout le monde a les préférences là sont assez univoques, quelles que soient les tranches d'âge. 29% des personnes souhaitent conserver l'échelle humaine de la ville et 28% veulent avoir donc les cours, les places et les ruelles dont on parlait pour une impression visuelle relativement dégagée et de profondeur. Et de, voilà. Et donc là, on arrive sur la diapositive suivante. Il y a un souhait également de porter une grande attention à la topographie, donc là, à hauteur de 84% des avis émis, donc en faveur d'un mélange des hauteurs en fonction de la topographie. Les jardins en cœur d'îlot, donc, toujours contribuent à limiter l'impression de hauteur ou de densité. Jardins en cœur d'îlot, à hauteur de 20%, 4% seulement des personnes jugent pertinente l'idée de hauteur sous plafond. Donc voilà, donc... on note que la prévalence de ces choix n'est pas variable en fonction de l'âge et sur cette question-là encore, les réponses sont homogènes par tranche d'âge. Concernant l'architecture, le souhait n'est pas émis d'architecture résolument moderne, pas forcément non plus de maisons sur les toits. Rue Léon Desoyers, il semble important de conserver des maisons qui aient des éléments architecturaux. Donc celles qui existent et qui sont... je dirais digne d'un intérêt patrimonial ou architectural, 48% des personnes souhaitent les voir conservées. Ensuite, les hauteurs, donc je l'ai dit, peuvent être mélangées en tenant compte de la topographie, donc on entend par cela évidemment le dénivelé, et le ménagement de perspectives de vue. Donc ça c'est important pour 84% des personnes. Côté aménagement et voirie, il semblerait que la sécurité et le confort soient privilégiés, ce qui n'est pas forcément étonnant. Donc on retire le souhait d'une place devant Poquelin, qui est pertinente pour un tiers des sondés, des trottoirs élargis, rue Léon Desoyers et Armagis, alors là c'est 41%, et pourquoi pas la place Lamand d'usage mixte, voiture et circulation douce. Je termine pratiquement sur la forme urbaine. Pour vous parler de la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux. Donc, il s'agit, pour rappel, des pavillons Lamand et Gérard, de la galerie L'Hôpital, de la chapelle et des châteaux d'eau. Alors, les avis sont assez réservés sur le changement d'usage de la chapelle. Voilà. La question 29 qui est là montre que la plupart des personnes sont favorables à ce que ces bâtiments préexistants et qui vont être probablement maintenus deviennent des lieux de culture et ou des lieux de restauration. Donc 34% en faveur d'un lieu de culture et 23% en faveur de lieux de restauration. Et en tout cas, c'est vrai que la dimension commerce ou habitation dans ces lieux existants est assez faiblement plébiscité. 17% pour les commerces et 12% pour les habitations. Le deuxième visuel que vous avez là, vous n'arrivez probablement pas à le lire, j'en suis désolée, les châteaux d'eau. Donc là, on fait un petit focus rapide sur les châteaux d'eau. Y a vraiment l'attente d'un geste architectural fort et un signal d'entrée de ville pour bon, un gros tiers de la population, 36%. Et donc l'usage de ces châteaux d'eau pourrait être culture ou service à 38%. Et donc, comme on l'a dit précédemment, pas habitation dans les châteaux d'eau, quoi qu'il en soit, il n'y a que 4,6% des personnes qui disent pourquoi pas des habitations. Et on s'aperçoit également que nombreux sont les sondés qui souhaitent, sont les sondés qui souhaitent leur destruction. Donc il y a moins de 5% de personnes qui se sont positionnées en faveur de la destruction des châteaux d'eau. On va passer à l'environnement. Alors, donc, côté environnement, il y a un large plébiscite pour une nature productive, 2/3 des sondés. Et en matière de verdure, les souhaits sont finalement assez classiques. C'est-à-dire que on parle de végétalisation des cours, des ruelles et des pieds d'immeubles, avec des arbres de pleine terre, pour 1/3 des sondés, et plutôt visible et accessible à tous. C'est-à-dire que les jardins d'îlots semblent un peu moins pertinents. Il y a 18% qui se déclarent en faveur des jardins en cœur d'îlot. Moi, je me permets une interprétation peut-être. Est-ce que c'est perçu comme trop caché, en tout cas ? Enfin, je ne sais pas. Et de même, pour les toitures végétalisées, il y a juste 10% qui préfèrent les toitures végétalisées à des arbres en pleine terre, par exemple. Peut-être aussi parce que c'est un peu plus exclusif. Donc ensuite, sur les mobilités, les déplacements. Ouais, voilà, les déplacements qui sont toujours dans la caractéristique d'environnement, en fait, autour de soi, etc. Les mobilités douces avec partage, donc on parle de vélo et de trottinette, sont plébiscitées à 37%. Et donc ces mobilités douces sont proportionnellement plus fortement souhaitées pour les moins de 55 ans. Voilà. Les navettes électriques connaissent un large succès, 69%. Mutualisation des parkings également. Rencontre encore plus de succès, cette mutualisation des parkings, auprès des plus de 55 ans, qui donc vont plus fortement se tourner vers la mutualisation des parkings que vers les vélos et trottinettes. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, c'est constaté. Voilà. Donc, concernant la santé et le bien-être maintenant, on note que 36% des personnes se prononcent en faveur d'une maison médicale regroupant des spécialistes, donc pour répondre probablement à une offre actuelle insuffisante. Le premier visuel. Et la maison médicale, elle apparaît en vert sur le premier visuel, donc les histogrammes verticaux. Donc on voit que tous âges confondus, il y a un fort engouement pour la maison médicale. Et l'hôtel hospitalier, lui également. Alors là, c'est plutôt sur le deuxième visuel. Un hôtel doit-il permettre d'accueillir la patientèle hospitalisée et leur famille ? Oui, alors là, carrément à 67%. Donc, hôtel et maison médicale avec des spécialistes. Une salle de sport également, 20%. Et puis, j'essaie de faire vite. La simplicité des envies prévaut en matière de bien-être aussi. C'est-à-dire que quand on regroupe le bien-être dans cette question, on s'aperçoit que les bancs, donc le repos, les fontaines pour l'agrément et les jeux pour enfants qui sont rencontres et défoulements, c'est vraiment considéré aussi comme favorisant le bien-être à 37, 29 et 26%. Voilà. Donc c'est ça vraiment, c'est des envies relativement simples. Donc.
Ouais. D'accord. Donc sur les lieux de vie et le vivre ensemble, diapo numéro 10, c'est bien ça. Les lieux de vie, le vivre ensemble, c'est vraiment un terme émergent qui suscite beaucoup d'attentes, probablement en termes d'échanges et de liens sociaux. Donc on note que les espaces de vie pour les rencontres et les événements ou la pratique d'activités sont vraiment très très attendus, enfin voilà, on s'en aperçoit dans plusieurs à l'occasion de plusieurs questions, en fait ça revient. Pour un usage plus je dirais dans les logements, potager et verger entre voisins également ont suscité pas mal d'intérêt. 95% des personnes, ça c'est statistiquement c'est énorme, se manifestent en faveur d'un habitat intergénérationnel et la prise en compte des handicaps. Donc dans ces 95%, j'avoue que j'ai englobé ceux qui répondent oui et ceux qui répondent pourquoi pas. Mais bon, c'est... Voilà. Diapo suivante. Elle concerne le côté intergénérationnel. Voilà. En fait, il y a un souhait qui est exprimé pour un quartier avec des services pour tous les âges. On note 66% de personnes en faveur d'une résidence aménageable selon l'autonomie des seniors, donc avec une certaine flexibilité, de préférence et assez nette à un EHPAD qui ne recueille entre guillemets que 17% des sondages. L'intégration des lycéens aussi. L'intégration des lycéens. Ouais, excusez-moi, je ne sais plus où elle est. Voilà, 65% souhaitent aussi que les lycéens donc, de Poquelin et de l'autre école dont le nom m'échappe puissent aussi entrer dans le quartier et voilà, s'y promener, y déambuler facilement et qu'il y ait des lieux pour eux. Et enfin, la résidence pour jeunes actifs. Donc, deux tiers des sondés plaident en sa faveur. On va parler rapidement sur l'innovation. Donc, les start-up santé et bien-être à 61% et incubateurs de jeunes entreprises à 60% sont plébiscités. Et puis, des services numériques innovants. Alors, c'est assez attendu également. Il n'y a que 4% qui s'en passeraient très volontiers. Et en fait, tous ces services numériques innovants dans le quartier pourraient être acceptés à condition toutefois de ne pas être ni intrusifs, ni... qu'ils servent à économiser des ressources et qu'ils assurent la sécurité et le confort des personnes résidentes. Et dans les habitations, pour finir sur les habitations, on attend notamment, il y a un souhait très fort de conciergerie. Donc la domotique, par exemple, n'est pas du tout plébiscitée. En revanche, des choses un peu plus humaines, type conciergerie, sont assez attendues. Et puis sur une partie, l'occupation éphémère des lieux pendant les phases de travaux, il y a 79% des personnes qui sont favorables. Et là, on note c'est la diapo suivante, je crois. Pardon, non, c'est celle-là. On note que les personnes qui sont éventuellement moins favorables à cette occupation éphémère pendant les travaux sont, et je ne sais pas si c'est très étonnant, sont les personnes qui résident dans le quartier hôpital et dans le quartier cœur de ville. Mais bon, ça, voilà. Donc ensuite, on arrive à la dimension commerce et services. Alors là, je pense que je ne surprendrai personne. Le cinéma est très fortement plébiscité. 82% des personnes sont favorables au cinéma. C'est ce que vous voyez en rouge sur le visuel de gauche. Voilà. 66%, donc deux tiers des personnes, s'expriment aussi en faveur d'un lieu multiculturel. Et donc, c'est un souhait qui ressort vraiment fortement des questions, de plusieurs questions, en fait. Les questions, vous ne les avez pas sous les yeux, mais 6, 14 et 29 évoquent ce lieu multiculturel ou de rencontre et d'échange. Voilà. Hop. On arrive à la fin. Donc, il y a un souhait aussi qui est très très marqué et très prégnant, à 53% de ne surtout pas concurrencer, enfin de ne pas concurrencer les commerces existants. En revanche, de nouvelles offres en termes de métiers de bouche sont plus spécifiquement réclamées par les habitants des quartiers hôpital et cœur de ville. Voilà. Il y a un taux d'adhésion, je dirais, de 24% en faveur des commerces d'équipement pour la maison et de nouveaux concepts. Les équipements de personnes sont assez peu plébiscités. Et pour terminer, les commerces en pied d'immeuble rue Lénon des Oyers sont plébiscités à 61%, soit près de deux tiers des sondages exprimés. Voilà. Donc pour terminer, la consultation fait ressortir une assez faible appétence pour tout ce qui est marketing ou gadget. Et un vivre ensemble et un cadre de vie qui sont vraiment des idées forces. Voilà. Merci beaucoup.
Non. Oui. Oui, vous m'entendez. Écoutez, après cette avalanche de chiffres, que l'on vous fera passer d'ailleurs, ça sera en ligne sur le site, donc vous pourrez regarder ça calmement et à tête reposée. Quelques points forts quand même que je crois qu'on doit retenir. D'abord, je crois que les Saint-Germanois sont des gens très ouverts. Ils le montrent dans cette façon d'aborder ce projet, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont déplacés encore ce soir. D'une manière non critique, très positive, avec des inquiétudes, certes. Quand on propose des choses nouvelles, on est toujours un peu interrogatif. Et ils ont été ouverts aussi dans ce projet, je trouve. Ce que je retiens, c'est que ce quartier devra montrer justement l'ouverture que nous avons à l'international, vis-à-vis des autres, etc. Et ça ressort beaucoup dans ce projet. Cette envie d'avoir de l'intergénérationnel, comme on dit, c'est-à-dire mélanger vraiment dans des mêmes endroits des personnes d'âge différents pour qu'ils puissent partager des expériences. Ça a été dit en filigrane. Ouverture aussi parce que le projet et le plan architectural, vous avez tous demandé qu'il soit très ouvert sur le reste de la ville. Bien sûr, sans bouleverser la ville. C'est pour ça que vous avez dit à une grande majorité que vous ne vouliez pas avoir quelque chose d'hyper moderne. Vous vouliez que ça reste plus traditionnel, ou du moins que ça se fonde avec le reste de la ville. Vous avez dit aussi que les châteaux d'eau étaient une très bonne idée, et beaucoup d'ailleurs ont repris à leur compte ce mot que nous avions toujours pour les qualifier. On disait toujours que c'était un signal pour la ville, et je crois que là vraiment il y a une vraie compréhension de ce que pourront être ces châteaux d'eau à l'avenir. Alors vous n'êtes pas toujours d'accord pour la destination. Le plus souvent, vous avez plutôt souhaité que nous en fassions un lieu encore de vie et pas d'habitation. Vous avez envie de vous y rencontrer. Vous avez envie d'un restaurant, vous avez envie de voir la nature en allant jusqu'en haut, vous avez peut-être envie d'y faire du sport, vous avez peut-être envie, mais toujours des choses collectives. Pour tout ce qui est bien-être et santé, vous avez totalement, je pense, maintenant bien compris le projet du nouvel hôpital. Vous avez compris aussi ce qui va faire la richesse du lieu, c'est-à-dire la santé entre public et privé. Et vous avez compris aussi l'ADN que l'on veut donner à ce lieu autour du bien-être et de la santé en rajoutant une maison médicale avec des nouveaux médecins libéraux. En revanche, c'est vrai que sur le bien-être, on peut dire que vous êtes plus réservé, mais peut-être parce que vous ne voyez pas encore toutes les possibilités que nous pourrons avoir. C'est vrai que, par exemple, le spa, la balnéothérapie, des choses comme ça, a priori, vous n'êtes pas contre, mais il n'y a pas eu un emballement non plus. En revanche, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que, quels que soient vos âges, vous avez totalement intégré l'idée qu'il fallait aussi que ce lieu permettent une image de Saint-Germain, un développement économique, et je pense notamment à la proposition qui vous a été faite autour de start-up, d'incubateurs, etc., autour de la santé. Ça, c'est quelque chose, même si tout le monde ne comprend pas encore bien ce que ça peut être, on voit que ça peut être quelque chose d'intéressant. Ce que l'on peut retenir aussi, et ça sera l'identité du quartier, c'est que je dirais que vous n'êtes pas pour les gadgets, vous n'êtes pas pour les côtés marketing, vous êtes pour que des choses vraiment pragmatiques, on le voit dans toutes vos réponses. C'est très pragmatique cette façon de répondre, il y a des choses qui vous semblent encore de l'ordre du gadget. En revanche, ce qui ne vous semble pas un gadget, c'est tout ce qu'on appelle, vous savez, ville, entre guillemets, intelligente, smart city, etc., des choses qui peuvent vous aider à l'avenir, à mieux vivre votre quotidien. Ça, c'est quelque chose qui a été peut-être pas plébiscité, mais en tout cas qui est attendu par beaucoup. On nous a répondu qu'à partir du moment où tout ce qui était ces éléments nouveaux, vous les accepteriez si ça vous donne du confort en plus, si ce n'est pas intrusif dans votre vie, si ça simplifie votre vie quotidienne, etc. Que vous dire d'autre ? Alors, le gros sujet a été, je pense, la rue Léon Dessoyer, et il est temps d'éclaircir certaines choses. Il y a beaucoup d'inquiétudes autour de la rue Léon Dessoyer. L'inquiétude aussi, elle vient de certains groupes de maisons qui ont une qualité architecturale très particulière. Et qu'il faudra donc avoir une attention très particulière à ce côté de la rue Léon Dessoyer et bien sûr à des ensembles architecturaux qui ne devront pas être gâchés mais bien mis en valeur par le reste du quartier. Et d'ailleurs, si nous n'arrivons pas à faire cette liaison qui passe justement par le respect de l'architecture de certaines maisons qui seront conservées, eh bien, nous n'aurons peut-être pas mieux réussi la liaison qui se ferait avec le reste du centre-ville. Je pense que tout ça est intimement lié. Tout ça pour vous dire que l'architecte des bâtiments de France a été très sensibilisé à ce sujet-là, comme pour d'autres d'ailleurs, et qu'elle va donc produire une note de synthèse donnant ses recommandations. Et elle sera très attentive après, pendant la construction, pendant les phases d'élaboration qui suivront là, dans les mois, dans les années à venir, à ce que tout ça fonctionne bien. Il y a eu aussi, je pense, une interrogation assez importante sur les hauteurs, puisque moi, de ce que j'ai compris, c'est que actuellement, le traitement qui a été fait des hauteurs se fait sur un sol plat. Or, quand nous sommes Saint-Germanois et que nous nous promenons dans ce quartier, nous savons qu'il y a des dénivelés. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt, justement, de ce quartier. C'est que, comme il est légèrement en pente, il y a des cônes de vue et on ne peut pas construire partout pareil. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que on prend le point le plus bas pour mettre des constructions et pour mettre des hauteurs. Donc, on devrait avoir une impression de moins de hauteur à certains endroits. Je ne vais peut-être pas continuer à vous égrener un peu ce que j'ai retenu. Je vais peut-être plutôt vous laisser la parole pour qu'il y ait un échange et qu'on puisse avancer. Je vous rappelle que le débat n'est pas terminé. Vous avez jusqu'au 4 mai pour enrichir cette consultation. Une synthèse va être envoyée évidemment au groupement. Ils feront comme ils veulent. Ils prendront certaines choses. Ils prendront tout. Ils ne prendront pas. En tout cas, ça doit leur permettre de nous rendre le 20 juin leur projet définitif. Voilà, j'ai sans doute oublié des choses, mais je compte sur vous pour me questionner. À vous. Aurions-nous été clairs? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout? C'est formidable. Les commerces, par exemple. C'est vrai que les commerces, ça a été une vraie question hein, pour tout le monde, pour les élus également, pour monsieur le maire. Vous avez été comme nous à dire que les commerces, il faut faire très attention. Les commerces, ils doivent être une complémentarité de ce qui se passe en ville, mais en aucun cas aspirer la vie commerciale de Saint-Germain. D'ailleurs, à ce propos, en fait, vous êtes très peu à vouloir à nouveau des magasins de vêtements. 10%, il reste 10% de Saint-Germanois qui ne sont pas satisfaits encore de ce qu'on a dans Saint-Germain. Ah, première question.
Bonjour. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors voilà, j'ai deux petites questions, mais je voudrais d'abord faire une petite introduction et remercier toute l'équipe de la commune et les élus qui partagent ce projet avec les habitants de la ville. Je trouve que c'est très bien. J'ai vécu dans cette ville pendant plusieurs années. Je l'ai quittée il y a peu de temps et j'ai l'intention d'y revenir. Donc ce programme et ce projet m'intéressent beaucoup. Voilà. Donc je suis assez impressionné par toute la communication qui a été faite autour de ce projet-là. J'ai quand même quelques petites questions qui sont liées alors plus aux investisseurs particuliers, individuels, que je peux être, que peut-être certains d'entre vous seront demain sur ce programme-là. Et notamment, j'aurais souhaité savoir quelle attention vous avez pu avoir quand vous avez sélectionné les groupements, les trois groupements actuels. D'abord, est-ce que vous avez vérifié que les programmes qui avaient été déjà réalisés par ces groupements-là ailleurs, dans d'autres villes, avait été correcte ? Est-ce qu'ils avaient été, est-ce que les programmes avaient été construits selon les délais et les qualités attendues par ceux qui ont investi ? La deuxième question est très proche. Que prévoyez-vous de faire, vous, élus, pour assurer que les investisseurs individuels seront correctement livrés à temps et dans la qualité attendue ? Je me réfère à une enquête qui a été faite il n'y a pas très longtemps par l'UFC Que Choisir, que je vous invite à consulter, et qui met en exergue beaucoup de lacunes dans les lois et règles actuelles qui protègent l'investisseur particulier. Voilà. Donc, j'ai envie d'investir, mais j'ai envie d'être rassuré sur la façon dont le programme va se dérouler une fois que l'entreprise aura été sélectionnée. Et surtout, si je me retrouve demain tout seul devant l'entreprise parce qu'elle n'aura pas fait correctement son travail, est-ce que vous, vous serez là aussi pour m'aider ?
Merci, monsieur.
J'ai peut-être commencé par répondre. Je ne sais pas si vous me voyez. Je suis désolé, je suis en contrebas. Alors, je vais peut-être commencer par la fin de votre question. Si jamais vous avez des problèmes, est-ce que la ville sera là pour vous aider ? Vous savez, même quand vous n'avez pas de problème, on est là pour vous aider. Donc, généralement, on est suffisamment sollicité, quelles que soient les situations, pour aider. Et ça arrive avec parfois des prérogatives qui sont limitées, notamment sur un litige de droit privé entre deux personnes privées, mais que bien évidemment dans les critères de choix qui seront faits, la qualité architecturale, la qualité des constructeurs est un paramètre qui est intégré. Alors les trois finalistes, sur les 10 groupements que nous avions, ce sont, on va dire, les 10 grands noms de l'immobilier. Je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier, du droit de la construction ou même de la construction, mais je peux vous assurer que les conseils qui nous accompagnent nous disent que ce sont les 10 plus grands noms que l'on a en France. On en a choisi 3 parmi ces 10 grands noms. Ces 3 sont des gens parfaitement respectables. Nous sommes allés vérifier un certain nombre de leurs projets qu'ils ont faits dans les Yvelines ou ailleurs. Les concurrents ne manquent pas de pointer les défauts des autres. Ça fait aussi partie de ce jeu-là. À nous de conserver notre objectivité, notre capacité de jugement aussi. Il y a aussi de l'intox. C'est une compétition entre groupements, on en est conscient. Donc, on essaye, voilà, et c'est pour ça qu'on a des conseils extérieurs aussi qui sont là pour nous éclairer. Et les réseaux d'élus locaux que nous avons sont aussi des outils d'aide à la décision. Et concernant un certain nombre de... On a pu écarter peut-être un ou deux groupements parce qu'on avait des remontées tellement négatives qu'on s'est dit, si on s'engage avec eux ou s'ils sont finalistes, je pense qu'on va passer de mauvais moments. Alors, par rapport à votre problématique qui est de dire, effectivement, qu'est-ce qui se passe, en gros, si vous avez des réserves, des malfaçons, c'est surtout ça qui peut arriver. C'est arrivé sur des programmes neufs à Saint-Germain. Et donc, on construit, en tout cas, des protocoles d'accompagnement avec les promoteurs qui vous ont livré les immeubles. Et on leur demande, en tout cas, de faire en sorte que les désordres soient remédiés. Alors, parfois, ça prend du temps. Parfois, il y a des expertises judiciaires, notamment, qui peuvent avoir lieu. Mais on suit ça de très près. J'ai un cas en tête très particulier. Je ne vais pas citer le nom du constructeur. Mais généralement, les constructeurs qui font quelque chose à Saint-Germain essayent de le faire bien parce qu'ils veulent en refaire un autre après. Et que si ça se passe mal, Saint-Germain, tout le monde se connaît, tout le monde sait comment ça fonctionne. Et forcément, il y a un risque de... préjudice de notoriété que je pense que les constructeurs n'ont peut-être pas envie de prendre. Ce n'est pas une science exacte, en tout cas, mais on est extrêmement vigilants sur ce point-là. Je ne sais pas, Marie-Lise, si tu veux rajouter un point.
Pour compléter aussi, on peut dire qu'il y a des engagements qui feront partie, bien évidemment, du contrat lors de la vente. Il y a des choses qui sont prévues, et notamment le respect d'un calendrier. D'autre part, tous les groupements sont obligés de proposer des normes qu'ils devront appliquer. Notre travail, nous, et le travail justement du cabinet qui nous assiste actuellement, c'est de voir effectivement les normes qui sont intéressantes pour nous et de demander qu'elles fassent partie du contrat. Il faut aussi rappeler que c'est un écoquartier, ce qui rajoute une strate d'obligations. Et puis enfin, c'est un peu en parallèle, mais nous sommes en train de produire une charte du promoteur pour qu'il y ait, c'est un document qui est un document de bonne volonté, certes, mais qui a tout son intérêt aussi pour pouvoir justement mieux piloter les professionnels. Voilà. Est-ce que je pouvais rajouter ?
Bonjour. Oui, une question. La force d'un quartier, c'est aussi un peu une mixité. Comment sont appréhendés dans les trois projets la présence de logements sociaux et comment, par exemple, les résidences possibles pour seniors, est-ce qu'ils sont considérés comme un projet rentrant dans la catégorie logement social ?
Alors, je vais répondre. Alors, la particularité de ce quartier, c'est son adossement à la Cité Largée. Il faut l'avoir en perspective parce qu'on ne peut pas comprendre ce projet si on n'y adosse pas l'histoire du logement, et notamment la Cité Largée. C'est une cité qui a été construite dans les années 50, un peu comme la cité Caraman à Saint-Léger. Et du temps de sa splendeur, l'hôpital était le premier employeur de la ville. Il y avait bien avant les militaires du camp des loges, hein, c'est-à-dire 2000. On est à 1500 personnes au camp des loges. On a été un petit peu plus. L'hôpital, on a été à plus de 2000 employés. Et donc, 2000 employés, ça a généré aussi des besoins en logement. Et la plupart des logements de la Cité Largée étaient affectés au personnel et communal, historiquement, et au personnel hospitalier. Encore aujourd'hui, on a des logements réservés au personnel infirmier sur la Cité Largée. Et donc, on a un protocole d'accord avec les résidences Yvelines-Essonnes, ex-Opivois, qui est le bailleur social, qui est propriétaire et gestionnaire de ce site-là, pour engager une opération à la fois de rénovation du parc existant, qui a un peu souffert, et également de construction de nouveaux logements sociaux, qui sont donc intégrés dans ce périmètre-là. Également, dans ce périmètre-là, un des facteurs de choix sera la mixité du logement dans la typologie des différents logements qui vont être offerts. On veut être très vigilant sur les prix de sortie. Ce qu'on appelle les prix de sortie, ce sont les prix au mètre carré qui seront proposés à la fin par les constructeurs. Il faut qu'on ait une typologie de prix qui soit adaptée, je veux dire, quasiment à toutes les bourses, notamment sur de l'accession à la propriété, que le prix soit maîtrisé, ou après, bon, bah, il y aura de l'accession libre. Mais cette mixité, dans son ensemble, dans la volumétrie d'ensemble du quartier, il faut l'intégrer, il faut intégrer les logements supplémentaires que va construire les résidences Yvelines-Essonnes. Alors, sur les résidences seniors, les trois groupements ont des propositions différentes. Il y a effectivement un groupement qui propose un EHPAD avec un certain nombre de lits qui sont conventionnés. Hein, conventionnement, c'est aussi important parce que c'est une denrée rare. Et donc, la question de l'intégration, voilà, du conventionnement, si on intègre cette quote-part de lits conventionnés de l'EHPAD dans le logement social, on peut en discuter, mais ça peut également en faire partie, est à prendre en considération. D'autres ont des résidences-services, on va dire, à prestations un peu supérieures, qui sont pas forcément, qui intègrent pas forcément cette notion-là. Je ne sais pas si je suis clair, Pascal. Mais...
Oui, bonsoir. Je pense que je me suis peut-être trompée je pensais ressortir de cette réunion ce soir en ayant une idée beaucoup plus précise du projet dominant, 1, 2 ou 3. Mais je pense que je me suis trompée et on n'en est pas à ce stade. C'est ce que vous confirmez ?
Nous sommes en période de concours et donc les trois groupements sont toujours en concours. Donc nous ne pouvons absolument rien dire. La ville bruisse de bruit. Mais il faut savoir d'abord qu'on attend la fin des travaux des trois groupements, qu'il va falloir étudier. Vous avez été interrogé sur la forme urbaine et ce que vous souhaitiez. À côté de ça, c'est vrai qu'il y a un dossier juridique et financier. qui va être étudié par nous, par l'EPFIF, par notre maître, enfin de, la personne qui nous assiste dans la maîtrise d'ouvrage. Et donc le processus, c'est qu'à la fin, avec tout ça, il y aura un choix qui sera fait, effectivement. Le maire sera entouré de ses adjoints qui feront un choix, et ce choix sera porté devant le conseil municipal. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a peu d'élus, sinon pas d'élus, qui savent encore ce qu'ils vont choisir. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail là pendant le mois qui vient pour arriver à avoir un projet qui tienne la route, dont on sait qu'il va satisfaire aussi la population et qui va satisfaire à beaucoup d'autres facteurs que celui simplement de l'architecture, bien sûr.
Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question concernant ce qui a été montré, c'est ce souhait d'intergénération. Qui dit intergénération, notamment en accession à la propriété, nécessite peut-être, monsieur le maire, vous l'avez dit, des grilles de prix intéressantes, mais qui permet éventuellement, ce qui est peut-être aujourd'hui pas très possible à Saint-Germain-en-Laye, que des primo-acquérants, que des jeunes couples puissent éventuellement acheter dans ce nouvel écoquartier. Est-ce que c'est quelque chose qui pourra être d'une certaine façon pris en compte ?
Oui, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que nous avons demandé au groupement, c'est de nous proposer des grilles de prix qui soient. Alors évidemment, le marché de l'immobilier dans 4 ou 5 ans, voilà, c'est toujours compliqué à anticiper hein, les évolutions dans un sens comme dans l'autre. Mais nous avons effectivement demandé au groupement de nous proposer des grilles de prix qui soient équilibrées de façon à permettre effectivement l'accession, la primo-accession à la propriété pour tout le monde. Voilà, ça fait partie des exigences que nous avons demandées.
Bonsoir. Je voudrais revenir sur le fait que c'est un écoquartier. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je ne l'avais pas personnellement compris. Par contre, tout à l'heure, dans la présentation des statistiques, il a été dit que les toits végétalisés, ce n'était pas quelque chose qui était forcément retenu par les gens qui avaient répondu à la consultation. Il me semble qu'aujourd'hui, pour un écoquartier et par rapport aux problèmes d'environnement, il y a au contraire beaucoup de choses qui seraient peut-être souhaitables de développer, comme des cultures sur les toits, comme des abeilles. Il y a tout un tas de choses qui sont étudiées aujourd'hui. Et même au niveau des immeubles, et là j'en viens vraiment au projet des groupements au niveau immobilier, au niveau des bâtiments. Aujourd'hui, il y a des bâtiments qui se font peut-être pas trop encore en France, mais dans beaucoup de pays, qui sont vraiment des bâtiments du futur, qui intègrent complètement la végétalisation, qui intègrent complètement des jardins partagés dans la structure même des immeubles. Or là, est-ce que c'est pour conserver justement ce lien un peu avec le passé et cette tradition ? Mais je n'ai pas trouvé dans les présentations des trois groupements ce côté un petit peu plus novateur, un petit peu plus en rupture. Or là, on est sur un écoquartier qu'on construit non pas pour nous-mêmes, non pas pour nos enfants ni nos petits-enfants, mais pour peut-être 200 ans, puisqu'on est en train de parler de conservation de patrimoine qui lui-même a 200 ans ou plus. Donc il faut aussi qu'on pense de cette façon, parce que c'est quand même très très gros projet. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu plus en rupture, au moins par rapport à ces éléments-là ?
Merci pour cette question, parce qu'effectivement, l'environnement, on n'en a pas encore parlé beaucoup. Dans notre cahier des charges, c'était très clair qu'il fallait que ce nouveau quartier intègre du végétal et de la nature. Pourquoi ? Parce que le reste de la ville, ce qui est autour, en a peu, en fin de compte. On voit tous notre place du marché qui est très minérale. Donc c'était dans notre cahier des charges et je pense que d'une manière ou d'une autre, chaque groupement y a répondu. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est que j'ai senti qu'il y avait par rapport au projet dont je vais vous parler tout de suite après, c'est que vraiment il y avait une forte demande des Saint-Germanois pour avoir de l'environnement, bien évidemment. Mais chose très étonnante, c'est que vous n'attendez pas de la nature traditionnelle. Ce que vous attendez, c'est justement ce que vous dites, madame. C'est quasiment de la nature productive. C'est-à-dire que vous êtes même, je pense, un peu en avance sur beaucoup de Français qui, pour le moment, parlent de nature en règle générale. Mais vous, vous avez déjà passé un gap et vous êtes déjà sur cette nature productive qui permettrait, en plus, de réduire les distances, puisque si on avait de la production dans notre ville, même évidemment pas pour nourrir 45 000 personnes, mais c'est des débuts et ça permet, un, d'avoir des circuits courts, et deux, ça permet aussi le vivre ensemble. Et les trois groupements ont proposé justement cette façon d'avoir une nature productive. Alors ça a été fait différemment. Il y en a qui ont proposé des potagers sur le toit, d'autres ont proposé des potagers le long des murs. Il y en a qui ont proposé que tous les arbres, ou presque, soient des vergers. Il y en a qui ont proposé effectivement que sur les toits, on mette des animaux. Donc voilà, c'est des choses. Ah, personne ne veut d'abeilles ? Très bien. Vous savez, tout ça est une question d'organisation. Vous verrez, dans 5-6 ans, vous n'y penserez plus. Vous irez chercher vos œufs au cinquième étage de l'immeuble. Non, sérieusement, je crois que ça a été vraiment pris en compte. Il y a encore du travail à faire, hein, ce n'est pas terminé. Et je rappelle d'ailleurs qu'une fois que le lauréat aura été choisi, le projet, il va évoluer. Je pense qu'on ne peut pas penser raisonnablement que dans 4 ou 5 ans, on n'aura pas de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Et donc, on va évoluer et vous participerez à cette demande, franchement.
Je peux juste compléter par rapport, puisqu'on parle d'environnement et de la présence de la nature sur le quartier. Et je pense que c'est très intéressant de regarder les projets, peut-être en opposition, en réaction avec la minéralité de la place du marché. Voilà. Et ça peut être effectivement une occasion de végétaliser en pleine terre, parce que c'est important, la pleine terre, à l'entrée de l'hypercentre, alors qu'on a historiquement un hypercentre qui est très minéral, parce que c'est comme ça, et c'est la prescription historique et la spécificité de l'urbanisme historique de notre ville. Mais en tout cas, moi, je sais qu'à titre personnel, c'est un élément de choix très important pour moi. Voilà, cette opposition entre minéralité et végétalisation sur le quartier de l'hôpital.
Oui, bonsoir. Je voulais simplement demander, par rapport à cet ensemble de logements qui va ramener quand même pas mal de population, ce que la ville a prévu comme transport en commun pour aller d'un côté vers le RER et l'impact sur le centre-ville et de l'autre côté sur le tram aussi, et comment ça va se passer pour toute la traversée de tout ce monde sur le centre-ville.
Je ne sais pas si Gilbert veut répondre, sinon je le fais.
Oui, volontiers. Effectivement, nous aurons une concomitance, si j'ose dire, de l'arrivée du T13 et de l'émergence de ce nouveau quartier. Et il est entendu, et nous y travaillons déjà, que le réseau de bus actuel, qui a eu beaucoup de succès, puisque nous sommes un des rares réseaux de Île-de-France à avoir une progression régulière de ses passagers, si j'ose dire, va être complètement bouleversé, puisqu'aujourd'hui, c'est par exemple l'axe principal qui est Bel Air RER, le matin et le soir, dans un sens ou dans l'autre, 10 000 passagers par jour, il faut savoir, 10 000 passagers par jour, sera maintenant le T13. Donc on n'aura plus besoin de passer tous ces bus à travers la rue Aupin, la rue Bonenfant, pour aller rejoindre le RER. Donc vous voyez bien les impacts que le T13 va avoir. Et ce nouveau quartier, bien sûr, aussi. Et donc, on substituera vraisemblablement à ces bus, si je veux dire, qui vont de point à point, des navettes, à circuit circulaire, qui effectivement auront des gabarits beaucoup moins importants que les bus qui sont faits aujourd'hui pour transporter des masses de voyageurs le plus vite possible d'un endroit à l'autre, en des navettes de petits gabarits, peut-être pas encore autonomes, je ne pourrais peut-être pas rêver, en 2050 elles le seront peut-être, mais au moins électriques, qui irrigueront le centre-ville entre, par exemple, la gare de Grande Ceinture, ce quartier de l'hôpital, la place du marché, la rue de Paris, retour par le RER, le château, etc. Et puis, on fait le tour. Donc, vous voyez, c'est le genre de choses à laquelle on réfléchit, mais il est un peu trop tôt pour être plus précis aujourd'hui, d'autant plus que, comme vous le savez, malheureusement, ce n'est pas la ville qui est, je dirais, décideur sur ce sujet. Nous devons suggérer tout cela à la région qui, à travers Île-de-France Mobilité, décide de de l'implantation de ces nouvelles navettes et surtout qu'à l'horizon de 2021, nous serons dans un univers concurrentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas discuter avec d'autres prestataires que Transdev, Veolia, pour ne pas le nommer, mais à partir de 2021, nous aurons le résultat des courses sur un appel d'offres, là aussi un concours que va lancer l'Île-de-France. Donc on aura peut-être un constructeur italien, enfin un prestataire italien ou un prestataire allemand qui gérera nos bus dans la région de Saint-Germain demain, bientôt. Voilà ce que je pouvais vous dire, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus.
Merci Gilbert. Jacques, si c'est vous qui tendez le micro au balcon, madame a demandé la parole.
Bonsoir, j'habite du côté de la place de Lamant et donc dans les différents projets, je me demande comment vous allez pouvoir aménager la circulation au niveau de cette place en particulier parce que vous voulez densifier ce quartier en habitation et en lieu de vie de quartier de l'hôpital, le nouveau. Et déjà, cette place de Lamant est complètement engorgée à la sortie de l'école, à ces horaires-là, les bus ne circulent plus, les personnes attendent leurs enfants et donc vous avez demandé si on voulait unifier le sens de circulation de la rue des Soyers et la rue de Poissy. Enfin, et comment on va tout circuler si vous ne poussez pas un peu les murs des maisons en les préservant? Enfin, comment vous allez aménager la circulation?
Alors, je rappelle que dans le cadre de la compétition, chaque groupement a proposé un plan de circulation et que le groupement va être aussi noté entre guillemets, sur la manière dont il anticipe la gestion des flux de circulation. Donc c'est très important. Il faut anticiper dans cette réponse qu'ils vont devoir apporter, il faut anticiper des évolutions structurelles, l'arrivée du T13, la refonte de réseau de bus, l'arrivée de la concurrence dans les bus, mais d'autres éléments. Qui peut nous dire à 10 ans ce que seront les mobilités automobiles en centre-ville ? Vont-elles évoluer ? Vont-elles se réduire ? Vont-elles s'accroître ? Quels sont les besoins de stationnement à cet endroit-là ? Est-ce qu'on aura plus que des trottinettes électriques partout ? Ou est-ce qu'on aura d'autres formes de mobilité ? Donc il faut intégrer tout ça. Là où vous avez raison, c'est que la place Léman, aujourd'hui, elle est stratégique pour la ville. Pourquoi ? Parce que c'est un nœud de croisement des quatre points cardinaux de la ville. Est-ouest, nord-sud, que c'est la partie basse du secteur sauvegardé et donc ça fait ce qu'on appelle partie du périphérique de contournement de la ville. Hein, quand vous prenez la rue Giraud-Telon et que vous poursuivez après, que vous passez la rue Joffre, eh ben, on arrive effectivement place Lamant, rue d'Ourche. C'est le contournement qu'on prend pour éviter effectivement le centre-ville. Donc la qualité du traitement sur la place Lamant, il est essentiel. Il y a aussi une autre contrainte, c'est qu'on est avec un collège-lycée qui croît. C'est 700 ou 800 collégiens et lycéens, donc il y a besoin de sécuriser l'espace public également. Là, les groupements ont compris qu'il fallait effectivement sécuriser l'espace en élargissant les trottoirs ou en faisant deux petites placettes de part et d'autre, devant la petite chapelle des Augustines et l'entrée de la maison de retraite, et puis devant le lycée. Mais c'est un élément, ça évidemment, ça sera un élément de choix que de voir comment ces groupements ont répondu à ces attentes-là.
Bonjour. Vous interveniez justement au sujet des circulations automobiles. Le sujet avait été évoqué par une des personnes lors de la première réunion. C'est le stationnement. Et le stationnement est un aspect fondamental. Les véhicules ne disparaîtront pas en quelques années. Ce qu'on va voir évoluer, c'est surtout la typologie, la survenue des véhicules hybrides et électriques, etc., leur diminution de gabarit. Mais cet écoquartier a aussi une vocation économique. Et donc, en filigrane, on a un besoin d'attractivité au regard des clients potentiels des autres villes, pour les commerces, pour les services. Et donc, il y a une nécessité d'avoir des capacités de stationnement. Et pour rebondir sur ce que vous veniez de dire, monsieur le maire, des facilités d'accès. Il est essentiel pour qu'un parking soit attractif, pour que les gens viennent volontiers sur le site, qu'il soit aisé d'accès. Et moi, je suggère de réfléchir à deux accès entrée, deux accès sortie, de telle sorte que, également en termes de sécurité, c'est un sujet d'actualité, mais pas seulement l'actualité de cette semaine, mais depuis un an, on a vu se développer un certain nombre de problèmes liés à l'accessibilité pour les forces de secours. Et quatre accès, deux entrées, deux sorties, ce pourrait peut-être être un des thèmes de réflexion. L'autre sujet que je souhaitais aborder, qui est tout à fait décalé par rapport aux réflexions, je suppose, actuellement, les questions qu'on a posées au travers d'une association que nous portons sont revenues quand même sur la problématique de la disparition des urgences. C'est un état de fait qui a été expliqué clairement et c'est extrêmement délicat de traiter ce sujet. Et donc, Poissy apporte ses services actuellement. Je pense qu'il ne serait pas inutile d'envisager un espace qui, dans un premier temps, serait affecté à une activité en location temporaire et qui pourrait potentiellement, dans un nombre indéfini d'années, ça ne sera sûrement pas dans 2-3 ans, être reconverti en plateau d'urgence, de telle sorte que notre grande ville, qui a vocation à peut-être avoir d'autres partenaires, qui vient de se développer avec Fourqueux, puisse avoir un noyau d'urgence. Bien sûr, il y a toute la technologie qui est requise, donc le sujet est délicat. Mais je soulève cette hypothèse de garder un espace non affecté, loué temporairement, sur une activité qui, pour éviter son gel, bien sûr, temporaire.
Merci. Donc, il y a plusieurs éléments dans votre intervention. Simplement sur le stationnement, c'est aussi un élément de choix. Les groupements n'ont pas tous fait la même proposition en matière d'offre de stationnement. Alors, ils vont pouvoir affiner leur proposition aussi bien dans la volumétrie, la mutualisation. On a vu que c'était un élément important, la mutualisation des places de stationnement, et également sur les dessertes d'entrée et de sortie. Donc ça, c'est quelque chose qui sera bien évidemment intégré. Vous avez juste, et je voudrais en parler, parce qu'on n'en a pas parlé, le volet économique. Il y a une réalité, et je pense que c'est important que tout le monde l'intègre, de concurrence accrue entre les centres-villes et entre les communes, y compris autour de Saint-Germain, ce qui est nouveau pour nous. Toutes les communes autour de Saint-Germain veulent s'armer, veulent une offre commerciale avec des commerces de proximité en centre-ville et ont également proposent des réponses de proximité, alors même que pendant des décennies, nous avons un petit peu vécu sur nos acquis en matière de commerce de proximité. Il y a également ce que j'appelle, moi, des menaces autour du développement des grandes surfaces que je trouve déraisonnables à la périphérie de notre ville. Peut-être demain... Je ne critique pas le développement qui a eu lieu à Chambourcy. Il ne faut pas non plus regarder ça en pleine concurrence. Il y a aussi de la complémentarité sur les offres commerciales. Mais il y a un projet de restructuration à Orgeval de la zone Art de Vivre qui, moi, m'inquiète un peu. Il y a un projet à Loucienne, juste après le cœur volant, d'extension de Parly 2 qui m'inquiète un peu. Il y a un projet d'extension et de développement du carrefour de Montesson dans des proportions qui, je pense, ne sont pas raisonnables. Donc, c'est aussi notre rôle d'être vigilant par rapport à ces développements. Et la vigilance, elle n'exclut pas également de nous renforcer sur nos points forts et de proposer également sur ce quartier peut-être des offres commerciales de complément sur des plus grandes surfaces. On a évoqué tout à l'heure, lors de la consultation, la question autour de la maison. Moi, honnêtement, vous dire aujourd'hui, je ne suis pas devin, vous dire dans 5 ans, quelles seront les attentes en matière de consommation individuelle, je ne le sais pas, mais au groupement aussi de faire des propositions. Et ils ne le savent pas encore, mais nous allons demander au groupement de nous dire aussi les indications en termes d'emploi. Combien d'emplois ce quartier va-t-il créer ? Voilà. Je pense que c'est important. Il y a de l'emploi hospitalier, il y a de l'emploi clinicien, mais ça représente très certainement des centaines d'emplois qui vont venir irriguer aussi notre bassin économique. Et ça, il faut l'intégrer. Un hôtel, c'est beaucoup. Un EHPAD, une résidence service, ce sont beaucoup d'employés qui viennent travailler. Enfin, le dernier élément de votre observation portait sur les urgences et l'offre de soins. Alors, les urgences de nuit, on n'en a pas aujourd'hui, à Saint-Germain, vous avez deux opportunités, enfin deux possibilités, je ne vais pas dire opportunité, c'est un bien grand mot, opportunité, excusez-moi, deux possibilités, les cliniques, la clinique de l'Europe ou les urgences à Poissy. Bon courage, hein, pour celles et ceux qui ont dû affronter effectivement parfois, et je ne remets pas en question le travail des personnels, mais c'est vrai qu'une offre de soins sur les urgences est attendue sur le territoire. Qu'elle soit à Poissy, qu'elle soit ailleurs, c'est attendu, d'où ce bâtiment est à hauteur, c'est un investissement à hauteur de 100 millions d'euros hein, quand même, qui est fait à Poissy. Aujourd'hui, vous avez des urgences de jour, on va appeler ça comme ça, le CCAU, hein, je crois que c'est son appellation, avec l'ensemble des spécialités qui seront présentes. Demain, ça sera la même chose. L'ensemble des spécialités actuellement exercées à l'hôpital seront présentes dans un système d'urgence, en tout cas de soins accessibles, je ne vais pas dire immédiatement, mais en tout cas rapidement aux patients. Ce qu'il manque, moi je trouve, dans ce projet, c'est une meilleure coopération entre les acteurs de santé publics et privés. Voilà, c'est une fragilité historique dans notre ville, entre les cliniques privées et parfois l'hôpital, toujours un petit peu de méfiance réciproque entre deux acteurs de la santé, et je trouve qu'il va falloir qu'on aille un petit peu au-delà. La clinique de Saint-Germain, elle est gérée par le groupe Vivalto, qui est également le gestionnaire de la clinique de l'Europe, à Port-Marly, qui a des urgences. On peut imaginer peut-être à l'avenir que dans le cadre du développement des pratiques de cette clinique, il y ait peut-être une offre d'urgence. Mais l'offre d'urgence, ça dépend aussi de ce que l'agence régionale de santé autorisera la clinique à faire. Et donc, ça obéit à des équilibres de santé publique. Et donc, on parle d'économie de la santé, là, qui sont un peu plus compliqués à aménager. Ce que nous souhaitons également, on a parlé de la maison médicale ou du plateau médical réservé aux professionnels de santé. Je pense que si on a une maison avec peut-être 30, 40 ou 50 cabinets médicaux de praticiens de ville qui sont regroupés, ça peut aussi permettre d'avoir, notamment sur les généralistes ou certains spécialistes, une offre de soins ou d'accessibilité en soirée que nous n'avons pas aujourd'hui parce qu'elle est pas, les moyens ne sont pas mutualisés et cette offre n'existe pas. Voilà. J'ai été un peu long, je suis désolé, mais trois points dans votre observation.
Bonsoir. On entend là, oui. Oui. Bonsoir. J'aurais abordé deux aspects qui concernent la phase réalisation. Le premier, c'est, je dirais, l'étude d'impact du chantier. J'espère que les entreprises, enfin les groupements, ont fourni une analyse détaillée et précise de leurs besoins de chantier en matière d'utilité, en matière de zone de stockage, en matière de transport pour leurs engins, pour leurs camions, les évacuations des agrégats et tout ça. Ça va perturber l'environnement de la zone pendant au bas mot 5 ans. Ce sont des éléments qui, de mon point de vue, vont être majeurs pour conditionner et le délai de réalisation et le respect des budgets. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est on a eu, je ne sais pas, 500, 1000, 1500 propositions, commentaires pertinents, plus ou moins réalistes, plus ou moins, je suppose, depuis 2 mois. Comment allons-nous vendre, je dirais, toute cette réflexion au groupement ? Est-ce que, pour l'instant, ils sont en phase d'étude, de proposition ? Est-ce qu'on va se contenter de leur dire, voilà ce que les gens souhaitent, faites au mieux ? Ou bien est-ce qu'on va en profiter pour réviser le cahier des charges, des spécifications, pour leur donner des contraintes, peut-être, qui répondent mieux aux besoins des gens ? Merci.
Va se faire par phase. Tout ne sera pas fait en même temps. Ensuite, les constructions, les façons de mener un chantier sont également prévues contractuellement. Donc il y a des choses qui sont organisées, il y a des normes qui existent. Ensuite, pour ce qui est des... La deuxième question, c'était autour... Ah oui, si on va pouvoir réviser ce qui a été le cahier des charges jusqu'à présent. Je dirais que déjà, il y a une synthèse de ce que vous avez dit qui va devoir être prise en compte. Et puis, bien évidemment, d'une manière ou d'une autre, nous allons faire passer des messages qui confortera ce que vous avez pensé et nous, la manière dont on a cheminé. Et pour ça, il y a deux étapes de réunion qui sont encore prévues pour nous, élus, fin mai et début juin. Donc il y a encore un travail itératif, avec les groupements. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit en tout premier, c'est qu'ils rendaient un projet définitif fin juin. Est-ce que j'ai répondu? Je ne sais pas, monsieur, où vous êtes. Là. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, c'est monsieur Audurier qui va vous répondre.
Merci, Marie-Lise. Écoute. Non, mais je pense effectivement, monsieur, qu'il faut que vous compreniez, comme le maire vous l'a expliqué, que c'est un concours. Ce n'est pas un marché que nous passons. Et la différence entre un concours et un marché, qu'un marché, c'est quelque chose que commande une collectivité à un entrepreneur avec des spécifications bien précises. Ça, c'est un marché. Et ça obéit à des règles de droit public très précises. Par contre, là, nous avons un concours. Et ce que nous allons choisir, c'est un projet qui nous est présenté par un de ces trois projets. Alors, nous pouvons émettre des recommandations, faire passer des comptes rendus d'entretien et d'enquête comme nous allons le faire. Mais nous ne pouvons pas exiger d'un de ces trois candidats, si j'ose dire, de faire ça et pas ça. À ce moment-là, ce serait requalifié en marché avec toutes les conséquences juridiques que ça pourrait avoir, que le candidat évincé dirait « Ben non, vous n'avez pas appliqué les règles, donc votre concours est nul et le choix que vous avez fait est non avenu et nul. » Donc voilà, nous sommes dans cette phase, dans cette opération qui est effectivement peut-être difficile à comprendre pour tout le monde, si j'ose dire, que ce n'est pas nous qui commandons. Hein, ce n'est pas une commande publique, comme on dit. C'est un projet que nous choisissons. Voilà. Je pense. Mais évidemment, on a toute possibilité à faire passer des messages et on ne s'en prive pas. Hein. Mais on ne peut pas l'écrire et l'exiger. D'ailleurs, parmi vous, il y a quelques représentants de ces candidats qui écoutent, j'en suis sûr, tout ce qui vient d'être dit.
Bonjour. Un des accès principaux à la ville est l'avenue Gambetta, qui a deux files de circulation vers le château. Ces deux files de circulation sont alimentées par une file qui vient de Château, peut-être du pont du Pec, peut-être deux, et deux files de circulation qui viennent du Bougival. Ce qui fait trois ou quatre files qui arrivent dans deux, qui elles-mêmes se réduisent à une seule file dans la rue Thiers, ce qui fait un étranglement permanent au moment de pointe. Je vous rappelle qu'avant le plan de circulation actuel, la rue Thiers était à deux files et se continuait devant la place du château à deux files, ce qui faisait un écoulement beaucoup plus fluide. Actuellement, on a une asphyxie volontaire de l'entrée dans la ville, avec les inconvénients que cela implique.
D'accord. Alors, le lien avec l'hôpital, je n'ai pas... Mais bon, alors, c'est un sujet, hein. Je n'évacue pas les sujets. Mais bon, ce n'est pas vraiment en lien avec la réunion de tout à l'heure. Ça a un lien indirect qui est, comme je vous le disais, la mise en place que l'on a historiquement. Hein. Saint-Germain, on n'a pas connu le baron Haussmann. Hein. Donc les rues sont ce qu'elles sont. Les difficultés de circulation en hypercentre sont ce qu'elles sont. On les connaît et ça fait des décennies que ça dure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas adresser les sujets. Il faut comprendre que dans les flux de circulation, déjà, la circulation de transit en centre-ville, elle est bien évidemment interdite pour les poids lourds. Vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, on a eu quelques difficultés. Et donc, on engage aussi ce contournement par le sud, c'est-à-dire par le quartier des lycées, pour rejoindre, d'où la connexion avec la place Laman, pour rejoindre parfois également la sortie sur Chambourcy. Mais là, si vous voulez aller sur Chambourcy, le plus simple, c'est de prendre la déviation, hein, plutôt que de passer par là. Et le rétrécissement que vous avez entre la Gambetta et Ruthière est justifié par le fait que vous avez une voie qui sert notamment de voie d'arrêt et de stationnement pour la gare routière que nous avons. Alors, à l'avenir, avec le T13, avec peut-être une optimisation à intervenir du parking dit de la piscine, dit de la piscine parce que tout le parking n'est pas réservé à la piscine, il n'est pas exclu qu'on repense un petit peu les modalités de stationnement et les points d'arrivée et de départ d'un certain nombre de lignes de bus, je pense toutes celles qui viennent du nord notamment, plutôt que d'arriver dans le centre-ville. Et je rappelle, notamment pour ceux qui utilisent les transports en commun, qu'au parking de la piscine, vous aurez accès avec un tapis roulant à l'entrée de la gare du T13 qui vous emmènera au RER. Donc peut-être plus besoin d'amener un certain nombre de bus dans l'hypercentre et en tout cas faire le tour de la mairie par la rue de Pontoise et après par la place de l'église. Voilà.
Oui, rebonsoir, c'est encore moi. Je voulais remercier monsieur par l'explication qu'il a donnée tout à l'heure, notamment sur la différence entre le concours et la commande publique. Du coup, la question qui me vient, c'est qui va passer commande une fois que l'entreprise qui aura concouru aura gagné. Donc, qui seront les investisseurs ou qui seront ceux qui passeront commande et qui détermineront avec détail le cahier des charges de ce programme ?
Juridiquement, nous ne passons pas commande. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Juridiquement, nous ne passons pas commande. Nous vendons un terrain et des droits à construire. Voilà. Et ensuite, nous instruisons des permis de construire. Vous voyez ? Donc, mais nous n'achetons pas des immeubles. Nous n'achetons pas quelque chose. Nous vendons des terrains avec des droits à construire et ensuite, du fait de notre droit régalien de ville, qui est l'urbanisme, comme c'est pouvoir, ça ne va peut-être pas durer, parce que beaucoup de réformes dont on parle, hein, mais pour le moment, en tout cas, c'est encore le maire qui accorde les permis de construire. Donc on a un double, si j'ose dire, contrôle, un, sur les droits à construire et deux, sur l'attribution des permis de construire. Mais nous ne commandons pas un immeuble, vous voyez, nous ne commandons pas un objet.
J'ai bien compris, donc est-ce que ça veut dire que le groupement qui aura gagné ce concours-là et qui aura eu du coup les droits, qui pourra acquérir le terrain et aura eu les droits à construire, sera ce groupement-là qui lui ensuite va acheter la construction de ce bâtiment-là et le commercialiser ?
Oui, oui, tout à fait.
Donc le choix du groupement est important aussi pour la suite.
C'est clair, c'est évident.
Mais je peux peut-être apporter peut-être quelques éléments de précision, parce que vous avez raison, ce n'est pas simple. Il y a en plus toute une ingénierie juridique et financière après à mettre en place avec ce groupement, des garanties à donner. Aujourd'hui, à qui appartiennent ces terrains ? Voilà, ça, c'est une bonne question. Ils appartiennent, on va dire, sur l'emprise totale, à 90%, bon, peut-être à 80% à l'hôpital, 10% à la ville. Qu'est-ce qui est propriété ville aujourd'hui ? Les châteaux d'eau, les deux bâtiments 10-10 pompiers qui sont derrière, qui appartiennent à la ville, et le petit bâtiment où il y a la mission locale. Pendant un temps, on a eu la police municipale également, vous savez, qui donne à l'intersection quasiment de la rue Landaisoé. Ça, ce sont des bâtiments communaux qui sont intégrés dans ce projet. Il y a quelques bâtiments le long de la rue Landaisoé qui sont déjà propriétés d'un établissement public qui s'appelle l'établissement public foncier d'Île-de-France, l'EPFIF, qui est notre partenaire, c'est notre conseil, c'est-à-dire que c'est lui qui va se porter acquéreur de l'intégralité des bâtiments. C'est son rôle. Et depuis 2013, nous avions, ville, établi un périmètre de veille foncière avec cet établissement public régional. Et progressivement, cet établissement public, dès que l'occasion s'en est produit, a acquis un certain nombre de biens auprès de l'hôpital. déjà, et l'hôpital y trouvait son compte, parce que l'hôpital avait besoin pour équilibrer son compte d'exploitation, notamment des recettes venant de la cession de ce foncier. Donc cet établissement public va acquérir pour le compte de, hein, peut revendre à la ville, ou va revendre directement au groupement qui sera choisi. Les recettes issues de cette cession du foncier vont en grande partie, en très grande partie, un petit peu pour la ville, un petit peu pour l'établissement public qui est déjà propriétaire de quelques pourcents, et à 80% aller à l'hôpital. Et ça, c'est, voilà, c'est de l'argent privé qui va être injecté sur le secteur hospitalier public, et cet argent-là, il va servir, je ne vais pas dire à hauteur équivalente, mais quasiment à hauteur de 20 et quelques millions sur Saint-Germain et 20 et quelques millions sur Poissy. Hein, cet argent-là sert à financer, à finaliser le financement du bâtiment des urgences de Poissy et à refaire l'enveloppe de l'hôpital public tel qu'il va être dans les années à venir. Voilà, ça, je pense que c'est important. Il y a peut-être un petit élément de pédagogie qu'il faut que tout le monde intègre sur cela. Je crois qu'il y avait une question là-bas.
Bonsoir. Alors, je voudrais avoir des précisions sur le cinéma, parce que je sais que le cinéma de Saint-Germain a été racheté par l'UGC. Et je suppose que l'UGC donc, viendrait s'impacter sur le quartier de l'hôpital. Moi, je m'inquiète en fait de la création d'un hyper cinéma qui amènerait une population différente et qui atteindrait en fait la tranquillité éventuelle de ce quartier-là.
Donc, vous vous inquiétez de, pardon, qui viendrait troubler, j'ai pas entendu la fin, de l'hyper qui viendrait. Alors, on a aujourd'hui donc un cinéma historique, hein, le C2L. Historique, il n'a pas toujours été là, rappelez-vous. Il a été là où était le Monoprix aujourd'hui. C'était là où était le cinéma avant. Donc, il était déjà quasiment proche du quartier de l'hôpital, qui fait 5 salles, qui est dans l'état dans lequel il est. Le groupe C2L, qui était un groupe d'opérateurs et de propriétaires de salles de cinéma, était un groupe indépendant et a cédé, je veux dire, la quasi-totalité, hein, Gilbert, je crois, la quasi-totalité de son parc de cinéma à un opérateur qui s'appelle UGC. Donc UGC, évidemment, est très intéressé par le projet, prend deux engagements. Le premier, c'est qu'en attendant que les nouvelles salles de cinéma seront construites, bah, de rénover un petit peu, de remettre à niveau la salle de cinéma actuelle. Et UGC, je crois, a acquis également l'intégralité de l'immeuble, hein, où sont les cinémas et pas juste les opérations. Alors après, quelle volumétrie? Aujourd'hui, on a 5 salles. Il ne faut pas se laisser abuser par le nombre de salles, parce que ce que nous expliquent les exploitants cinématographiques, c'est qu'aujourd'hui, il faut mieux, avec peut-être le même nombre de fauteuils, avoir plus de salles, mais des salles plus petites, mais une offre plus large. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais c'est ce qu'ils nous expliquent. Donc, en termes de volume de fauteuils, on aura peut-être une à deux salles de plus, mais à l'époque, Mme Couder, donc, qui était la propriétaire du C2L, cherchait déjà à faire une salle ou deux de plus là où elle est. Donc, passer de 5 à 7, l'idée, ce n'est pas de passer à 15 ni à 12, c'est de savoir où est le point d'équilibre entre 5 et 10, sachant que ce sont des équilibres territoriaux aussi. Il y a une offre cinématographique qui est partout. Vous avez vu qu'à Paris 2, ils viennent de faire 12 salles. Je crois qu'à Véligy, ils en ont fait une vingtaine. Bon, c'est important pour nous de conserver notre cinéma en centre-ville. Et je préfère un cinéma en centre-ville que d'avoir un multiplex à Chambourcy ou à Orgeval. C'est essentiel, y compris pour nos enfants, parce que c'est sécurisant d'aller au cinéma à Saint-Germain. Où est-ce qu'on place exactement le seuil? Je pense que 5, ce n'est pas assez, si vous voulez mon avis. À minima, c'est 6 ou 7. Est-ce que c'est 10? Je ne sais pas. Très honnêtement, mais j'intègre ce commentaire, en tout cas, que vous faites.
Oui, bonsoir. Moi, j'aurais voulu parler, enfin, si c'est bien le sujet du débat, au niveau de l'hôpital de Poissy, au niveau des urgences. J'ai deux questions à poser. La première, c'est la fameuse liaison Saint-Germain à cet hôpital, qui aujourd'hui est assez dure, puisqu'il faut prendre un bus à Saint-Germain, monter à Saint-Germain, prendre un bus, qui nous emmène à la gare de Poissy et reprendre un bus pour remonter. Alors, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir une liaison pour aller à Poissy, mais en passant par l'hôpital? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, dans toutes les prestations qu'il y a au niveau des urgences, j'ai été confronté à ce problème-là. Apparemment, il n'y a aucune urgence au niveau dentaire. Alors, je ne sais pas si dans l'avenir, dans la réorganisation, parce qu'aujourd'hui, si on a une urgence dentaire, il faut aller à la salle pétrière. Il n'y a pas d'autre endroit. Voilà. Donc, je vous pose la question, dans toute l'organisation, est-ce qu'il y aura... Voilà. C'est tout.
Alors, merci Eric de ta question. Alors, sur Gilbert pourrait répondre également sur les bus, parce que je crois que c'est Transdev qui avait mis en place un système de navette directe et qui malheureusement n'avait pas fonctionné. Ouais. Alors, ça n'avait pas fonctionné. Quand je dis pas fonctionné, c'est-à-dire qu'il y avait un taux de fréquentation qui était trop faible. Était-ce peut-être à cause d'une mauvaise communication? Était-ce parce que les besoins n'étaient pas là? On entend beaucoup ce point-là. On entend beaucoup ce besoin d'accessibilité en direct. Peut-être, Gilbert, tu peux compléter?
Oui. Je pense qu'il faut prendre en considération que à Saint-Germain, on va être en ambulatoire et que 70% des actes ont vocation à être en ambulatoire. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, des pathologies sont soignées, exigeant 2, 3, 4, 5 jours de lit d'hôpital, et donc nécessite effectivement que des gens aillent visiter ces personnes. Donc je pense que l'ambulatoire devrait déjà restreindre ce besoin de pendule, si j'ose dire, entre Poissy et Saint-Germain. Parce que uniquement les pathologies les plus lourdes seront traitées à Poissy.
D'accord.
Déjà. Deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir la mise à la concurrence des bus. Et il se trouve que le STIF va lancer cet appel d'offres et a déterminé des zones. Or, une zone où il y aura un appel à concurrence sera notre réseau Rézalis actuel, le réseau bus en Seine, et quelques lignes de Poissy. Malheureusement, je ne sais pas trop quelles lignes. Donc on peut peut-être espérer qu'à la faveur de ce remixage des cartes, si j'ose dire, des transports en région parisienne, on puisse éventuellement, si Poissy fait partie de cette zone qui nous concernerait, nous, Saint-Germain, on puisse à ce moment-là peut-être envisager une navette vers l'hôpital. En plus, il y a aujourd'hui des possibilités, je pense, plutôt de transport à la demande. Je crois que, en fait, la solution plutôt pour ce type de besoin est plus dans le transport à la demande. Les technologies aujourd'hui font qu'on peut facilement mettre du transport à la demande dans des conditions économiques relativement aisées, et qui sont intermédiaires entre le bus avec des horaires réguliers et puis le taxi traditionnel que vous pouvez toujours prendre aujourd'hui.
Ah oui, hein. Non,
les taxis saint-germanois sont toujours heureux d'aller vous conduire à l'hôpital, sauf que le tarif n'est pas...
Voilà, c'est ça.
Voilà. Non, mais moi, je pense que la solution, elle est plus, très sincèrement, dans le transport à la demande qui peut se développer et qu'il faut qu'on regarde d'ailleurs d'assez près à notre niveau pour favoriser ce type d'initiative sur notre bassin de vie. Pas seulement pour l'hôpital, d'ailleurs.
Non, pas seulement pour l'hôpital, hein, parce que ça pourrait être une ligne qui desserve l'hôpital en passant par l'hôpital et aille directement sur Poissy aussi.
Et pour
au lieu
la...
de passer comme ça, repasse comme ça.
Et pour alors, la question des urgences dentaires, là, je ne sais pas.
Là, je pose une colle, je pense.
Oui, là, tu me poses une colle. Je ne sais pas répondre. Ce que je sais, c'est qu'il y a un certain nombre de praticiens dentaires en ville qui sont en train de se regrouper. Est-ce que ça peut impliquer, avec des sociétés de moyens, on appelle ça comme ça, est-ce que ça implique peut-être un service de prise en charge le week-end ou en urgence? C'est aussi peut-être à eux de se positionner.
Nous avons une réunion justement avec les professionnels de santé prochainement. C'est un sujet qu'on pourrait aborder avec eux.
Ok, merci.
Bien, s'il n'y a plus de questions, je crois que nous allons pouvoir conclure pour aujourd'hui. Deux ou trois choses, donc, pour vous rappeler, pour vraiment vous dire qu'on est face quand même à trois projets qui sont solides. Ils ont tous des avantages et des inconvénients, et les groupements vont travailler, je pense, sur cela. Tout ce que vous avez apporté jusqu'à présent, toute la matière, eh bien, nous allons leur donner, et je pense qu'elle sera entre bonnes mains. Et bien évidemment, nous serons les supporters, et on sera attentifs à ce que ça soit pris en compte. Je peux le dire assez simplement, puisque les représentants des groupements sont avec nous, donc je pense qu'ils ont déjà compris pas mal de choses ce soir, et qu'ils savent qu'ils continuent à être sous le faisceau, et qu'il va falloir qu'ils fassent très attention. Voilà. Et bon concours à eux, Merci à vous tous. Je vous dis peut-être à la fin du mois de mai, puisqu'on devrait refaire une dernière séance. Et puis, bonne soirée à vous et merci encore de votre participation.
Merci. Merci.